Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble pendant 3 heures avec une très belle équipe autour de la table. Puisqu'aujourd'hui, nous avons Charles Magnin, nous avons la petite nouvelle dans la bande, journaliste, essayiste, notre intellectuel, Tristan Bannon, voilà, qui a déjà beaucoup de fans, voilà, sur le WhatsApp d'Estelle Midi. On rappelle le numéro, Charles.
Le 0612 424 424 pour saluer Tristan, mais aussi pour tous les sujets, évidemment. Oui. On lit tous vos messages en direct.
Voilà, si vous voulez envoyer des messages pour dire ce que vous pensez des chroniqueurs et des chroniqueuses, n'hésitez pas, on ne les lira pas tous.
Oui, je filtre.
Oui, c'est bien que tu filtres quand même. Nous avons également le professeur d'histoire géo, Benjamin Hamard, et la journaliste à l'incorrect, Juliette Briens. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. À 13h30, on parlera des seniors qui se disent maltraités en entreprise. Mais avoir un senior au boulot, est-ce que c'est un cadeau ou un fardeau? Bah écoutez, vous nous dites tout au 32-16. Et puis à 14h, le succès de Marie Blacher qui talonne Burger King et McDo. Déjeuner à la boulangerie, pour vous, est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est totalement déprimant? Là encore, vous nous appelez, vous réagissez. Et puis juste avant, 13h50, le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt. Bonjour Pierre-Antoine.
Salut Estelle, salut à tous et bienvenue Tristan, notre nouvelle recrue. Et comme me disait Estelle avant l'émission, ça va faire du bien un peu de son œuf. Je peux plus me les saquer ces cons-là.
J'ai jamais dit ça.
Non, mais bon, c'est vrai que ça fait du bien, ça fait du bien. Alors Tristan, le répondeur de l'émission, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un peu le confessionnal des Français. Voilà, les Français nous appellent, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est un défouloir. On écoute un message pour.
Allons trouver un petit air de curé, c'est vrai.
Voilà, c'est ça. Merci.
Oui, bonjour, Jonathan de Créteil. C'est énorme, devinez quoi? Ce matin, mon chien Cookie, il m'a annoncé qu'il était candidat à gauche à la présidentielle. Après, il a fait une petite sieste sur le canapé, et là, boum, il se réveille, il est déjà à 8% dans les sondages. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est mon bon chien, ça. Oh, c'est mon Cookie président. Oh, c'est mon Cookie. Oh, il va mettre une tôle à Olivier Faure. Oh, bah oui, c'est bien.
Et je pense que c'est pas loin d'être la meilleure chance à gauche, Cookie.
Oh, mais arrêtez. Allez, non, il y a Jérôme Gage aussi.
Ah, oh, pardon, oui.
Et François Hollande.
Il y a tellement de monde.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Et Raphaël Glucksmann.
C'est un chenil.
Alors écoutez.
Tout à l'heure.
Ne dites pas ça devant Benjamin Hamard. Allez, tout de suite le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Les GG ce matin sur RMC, plainte en série contre Patrick Bruel, est-ce la fin de la carrière du chanteur? Au moins 12 plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel, dont celle de Flavie Flamand qui accuse le chanteur de l'avoir violé il y a 35 ans. Pour Joël Dagosséry, coach de vie des GG, la justice doit être plus ferme sur la question de l'âge du consentement sexuel.
Ben non, moi il n'y a pas de malaise. Enfin, je veux dire, viol ou pas, ça c'est à la justice de... J'espère qu'elle pourra... faire la vérité, mais on parle d'une fille qui a 16 ans avec un type qui a plus de 30 ans. Donc, excusez-moi, moi j'ai une fille, elle a 16 ans. Donc, va pas m'expliquer qu'une fille qui a 16 ans, où la relation a été consentie, le type, il a 32 ans, bah non. Ça déjà c'est un scandale, le pouvoir d'emprise ou ce que tu veux, ou même d'influence, ou même d'admiration, ce que tu veux, il est là.
Tristan Bannon, est-ce que c'est la fin là aujourd'hui de la carrière de Patrick Bruel? Il y a 12 plaintes qui ont été déposées. L'avocate de Flavie Flamand qui dit que de nouvelles plaintes vont encore l'être. Est-ce que c'est fini pour lui?
Alors ça, j'en sais rien du tout. Moi, depuis des années, je répète la même chose, c'est que je ne suis pas juge, que nous ne sommes pas des juges. Et cette affaire me donne encore plus la certitude qu'il ne faut pas l'être. Il se trouve que je connais l'un et je connais l'autre. Et,
de Patrick Bruel
et de Flavie Flamand. Je ne connais pas toutes les autres femmes, évidemment, qui ont déposé plainte ou qui ont dénoncé des faits. Ce que je sais, c'est que la justice est quand même pas si mal faite que ça et que nous n'avons pas nécessairement les éléments pour juger et que je suis un peu mal à l'aise devant la feuilletonisation de ces affaires, que ce soit celle-ci ou d'autres, qui nous mettent face à l'injonction de prendre parti et de décider et de répondre à ce genre de questions, c'est-à-dire est-ce que c'est fini pour lui ou pas, qui je serais pour dire si c'est fini pour lui ou pas, voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ni si c'est fini pour lui ou pas, ni ce qui s'est passé. Et j'espère que la justice fera son travail.
Mais après, vous parlez du feuilleton Patrick Bruel, mais vous avez été la première à dénoncer les comportements, par exemple, de DSK.
Ouais.
À l'époque, j'imagine que vous auriez aussi aimé être suivie par d'autres femmes et qu'il y ait un feuilleton, justement.
Alors, je vais vous dire, j'aurais aimé que d'autres femmes, si elles avaient eu des problèmes avec Dominique Strauss-Kahn d'ordre de violence sexuelle, qu'elles les dénoncent. En revanche, et je pense que de nombreux journalistes en sont témoins, quand on venait me voir en disant je vous crois ou je ne vous crois pas, l'un comme l'autre me mettait tout aussi mal à l'aise.
D'accord.
Et je répondais systématiquement à ceux qui me disaient je sais que vous dites la vérité, je disais malheureusement vous ne savez rien, vous n'étiez pas là, et je disais à ceux qui me disaient je sais que vous mentez, vous n'en savez rien non plus. Et je pense qu'on gagnerait à prendre du recul, à laisser la justice travailler et à ne pas vouloir se substituer et aux juges et il y a une espèce d'appétence malsaine pour ces affaires. Il est important de dénoncer ces faits et l'équilibre est compliqué à trouver. J'ai pas la réponse. Il y a un équilibre à trouver que je ne connais pas entre le fait qu'il faut dénoncer les faits, les violences sexuelles pour que les choses changent et que il ne faut pas non plus basculer dans le jugement en place publique et dans la feuilletonisation de ces affaires. J'ai pas l'équilibre, je le connais pas.
Après, on peut estimer qu'il y a effectivement une trentaine de témoignages et peut-être que ces femmes, ça les met mal à l'aise de savoir que leur agresseur présumé, parce que c'est présumé, il est au théâtre tous les soirs et qu'il va entamer une tournée triomphale, je veux dire, cet été en France. On peut avoir aussi les deux points de vue, Juliette Briens.
Oui, bah parce que 30 accusations, 30 plaignantes, ça interpelle énormément.
12 plaintes et 30 témoignages.
Ouais, donc plaignante, je dis plaignante parce que je veux pas dire victime, parce que sinon on abolit immédiatement la présomption d'innocence. Moi, je suis d'accord avec Tristan. On n'a pas la bonne solution. Et oui, ça met très mal à l'aise de commenter ce genre d'accusation, parce que voilà, on n'était pas là. Et c'est vrai qu'il y a quand même, on est interpellé par l'accumulation des témoignages. Parmi les témoignages, il y a des choses que je trouve très graves et d'autres moins graves, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Donc, on est interpellé, mais en même temps.
Il y a des plaintes pour viol.
Voilà, c'est ce que je dis. Il y a des plaintes qui sont très graves et d'autres qui sont, voilà, peut-être qui donnent matière à interprétation. Et puis, encore une fois, il y a toujours les 30 années qui s'écoulent. Et puis, on découvre que pendant 30 années, la relation entre la plaignante et l'accusée était normalisée, voire extrêmement amicale. Alors, on se dit, mais comment c'est possible?
On n'en sait rien. Bah, et Flavie Flamand, elle dit j'avais pas le choix.
Moi, je vous dis ce que je ressens, parce qu'en fait, c'est qu'une question de ressenti. Sinon, en fait, c'est mieux de ne pas en parler et de laisser la justice faire. Moi, j'ai rien d'autre à dire que j'en sais rien, en fait. J'étais pas là. Je suis interpellée. Voilà.
Et très mauvaise défense de son avocat.
Alors, la défense de l'avocat, voilà. Effectivement.
Hier, dans cet avis, un homme de 30 ans, il faisait jeune aussi.
Oui, c'est une très mauvaise défense. Ça, là, au moins, on peut le dire.
Oui, ça c'est sûr qu'il n'est pas hyper bien défendu. Benjamin Amar, on fait quoi avec Patrick Bruel?
Moi, j'ai quasiment pas une syllabe à retirer à ce qu'a dit Tristan Bannon. Moi, je pense qu'on devrait garder en tête que les gens sont jugés dans les tribunaux de la République. La justice en France, elle est très bien faite. Voilà. On peut lui faire confiance. Et tous ceux qui veulent se substituer à la justice de la République, la plupart du temps, ce qu'ils proposent, ça vaut pas tripette. Donc, en l'occurrence, moi, y compris ce qui a été décrit par Tristan, je m'y retrouve totalement.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il faciliter l'installation de poulaillers géants? L'Assemblée nationale étudie à partir d'aujourd'hui le projet de loi d'urgence agricole. Le but, répondre à la demande croissante de la consommation d'œufs et de poulets en facilitant l'installation de fermes en France. Notre reporter RMC, Philippine Boulet, a justement rencontré un agriculteur qui a voulu se lancer dans la volaille. Écoutez.
Camille se lance en 2023 dans le projet de sa vie, construire une exploitation de 30 000 poules pondeuses dans la Vienne. 3 ans plus tard, seul un hangar est sorti de terre.
Ça a été laborieux, ça se concrétise encore.
Le parcours du combattant, selon lui, il a passé 2 ans à faire uniquement de l'administratif.
On nous demande 3 ou 4 fois les mêmes informations, qu'on en était même à douter de la faisabilité du projet dû au retard.
À ces contraintes s'ajoute la recherche de financement. Alors pour faciliter l'installation des éleveurs, le projet de loi prévoit de revoir à la hausse le seuil à partir duquel certaines normes environnementales s'appliquent, de 40 000 à 60 000 poules. Une très mauvaise idée selon Stéphane Boissavi de l'association Wellfarm, opposée à ces structures. Pour lui, elles sont un danger pour l'environnement.
Il y a régulièrement des incidents qui peuvent entraîner de la pollution, de l'air, des sols, des rivières. Bon, les effluents animaux, etc. entraînent une pollution. Une cuve à lisier, par exemple, qui a une fuite et puis ça se déverse dans les rivières.
Selon les défenseurs du projet de loi, la création de poulaillers géants permet de répondre à la demande croissante en poulets et en œufs.
Juliette Briens, est-ce qu'il faut faciliter l'installation de fermes géantes ou les limiter au maximum?
Ben non, oui, il faut. Ah bon. Je comprends pas en fait, on n'arrête pas de nous bassiner à longueur de temps et à raison pour qu'on mange français, qu'on arrête de se bouver, de se gaver de poulet aux hormones ukrainiens. Et donc là, on essaie de trouver une solution, à savoir industrialiser en masse le poulet franco-français donc.
Oui.
Et c'est encore pas bon, parce que je
c'est
sais
pas
quoi.
Pas un petit producteur.
Mais et alors, mais
bah et alors
mais vous pensez, mais il y a beaucoup de bouches à nourrir. Vous savez combien de millions de tonnes de kilos de poulet on consomme par an?
Oui.
Ben non, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi.
Ben on peut peut-être privilégier les petites fermes.
Mais il n'y en aura pas assez pour tout le monde, Estelle. Oui. Il n'y a pas assez de poulet pour tout le monde. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se rabat sur le poulet européen ou le poulet de l'autre bout du monde. Donc et oui, il faut choisir. Mm. Parce qu'en fait, vous n'êtes jamais content. C'est ça le truc.
Enfin, si vous habitiez juste en face, vous auriez pas le même raisonnement.
Ah, bah oui. Déjà, quand on vit à la campagne, on s'attend à voir des poules.
Hein, bah, c'est pas des poules, elles sont 10 000 en général. Ça fait un peu de bruit.
On les voit pas en l'occurrence. Elles voient pas la lumière du jour.
Il y a pas juste un coq qui travaille à 5 heures.
Moi, je pense que franchement, vous n'êtes jamais content, quoi. Et quand on apporte une solution saine et pragmatique à un problème qui préoccupe tout le monde, eh ben, vous allez encore trouver le moyen de le démonter en disant oui, mais le bruit, oui, mais les odeurs, oui, mais ça rejette je ne sais quoi dans l'eau. Alors laissez-nous bouffer notre poulet ukrainien. Enfin, je sais pas.
Juliette a raison. Aujourd'hui, on a mis des normes en France les plus fortes du monde, en tout cas d'Europe, où c'est 30 000 maximum, là où nos voisins peuvent aller à 50, 70 000 dans leur ferme usine. Bah oui, mais le résultat.
Entre 30 et 50.
Bah oui, mais
ton poulet ne voit pas le jour de toutes les manières.
Bah c'est tout le débat. Aujourd'hui, c'est ça qu'elle autorise cette loi, c'est d'aller au-delà d'un certain seuil qui est pourtant autorisé dans le reste de l'Europe. On peut pas être le bon élève tant qu'on n'impose pas les mêmes normes à nos voisins européens. Mm. On peut pas continuer à jouer le bon élève et en même temps à dire on veut du poulet français, on veut des poules françaises. Ouais. C'est pas possible.
Mais moi, j'aimerais que sur mon poulet, il y ait marqué poulet de ferme géante ou poulet de petits producteurs. J'ai envie de savoir. Bah oui, mais
déjà
mon poulet.
Et le payer deux fois plus cher.
Voilà, j'ai envie de savoir si mon poulet, il a vu le jour une fois dans sa vie.
En fonction du prix, si là, c'est en fonction du prix, ça vous donne une indication normalement. T'as les poissons, t'as le poisson d'élevage ou le poisson sauvage, tu le sais à chaque fois.
Tu regardes sur tes étiquettes, sur les œufs ou sur le poulet, t'as les labels.
Les œufs, 0 ou 1 FR, pas plus.
Oui. Bah voilà, mais
deux FR, ça.
Donc le la question, quand il est à 40 t'as... balles, c'est qu'il a.
Voilà, oui. Il a le prix jour. et t'as l'étiquette et t'as le label.
Exactement.
Il a donc ça existe. Ça existe déjà. Il y a des labels qui permettent d'identifier de quel poulet ou de quel œuf on parle. Donc en l'occurrence, oui, c'est effectivement des structures qui vont permettre pour le coup de la viande ou des œufs à des prix plutôt modiques. Ça pose des problèmes de conflit de conflit d'usage avec le voisinage, etc. Mais soyons clairs, si on veut permettre à l'agriculture française de faire face à la rivalité européenne et extra-européenne, il va falloir lui donner quelques outils.
Ok, vous m'avez convaincu. Bravo à tous les deux. Bon. Le Morning RMC, ce matin sur RMC. Des cours d'éducation financière à l'école, bonne ou mauvaise idée? Dès la rentrée 2026, une formation d'économie sera généralisée à toutes les classes en quatrième. Objectif, acquérir des compétences financières pour éviter l'endettement ou les arnaques. Écoutez Marc Mazière, il est fondateur du blog Radin Malin.
Déjà, le fait de savoir gérer un compte et le fait de se responsabiliser par rapport à l'argent et aussi le fait d'anticiper les arnaques. Parce que pour les ados, c'est quand même des cibles qui sont assez faciles pour tout ce qui est trading, crypto, vous savez, des arnaques en ligne, assez classiques. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention aux réseaux sociaux et à toutes les promesses qu'il peut y avoir dessus.
Tristan Bannon, bonne ou mauvaise idée, cette éducation, ces cours d'éducation financière à l'école?
J'ai souvent reproché aux cours à l'école de ne pas préparer à la vie. Donc je ne vais pas dire que c'est une mauvaise idée. Je pense que normalement, on doit sortir de l'école en étant armé pour affronter la vie et le monde quotidien. Et ça ne peut qu'aider. Effectivement, quand on voit parfois des jeunes qui sont incapables d'affronter des situations où ils devraient avoir appris à gérer les finances. Et d'autant plus dans un monde où effectivement, le monsieur parlait de crypto-monnaie. Effectivement, c'est bien de plus en plus complexe, je pense que ça ne peut être que bon et bénéfique.
Benjamin Hamard, vous qui êtes prof, justement, vous voyez ça d'un bon œil?
Mais oui, moi je vois ça. Enfin, au vu de ce qui nous est présenté là, moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Vous savez, le surendettement frappe très fort les classes populaires. Et moi je vois à travers mes élèves, par exemple quand on est en voyage scolaire et que les parents leur donnent de l'argent, je vois que ce sont des paniers percés qui achètent à peu près tout et n'importe quoi.
Mais est-ce qu'on n'a pas fait pareil?
Oui, bah sans doute. Mais ça fait partie.
Vous savez,
moi en l'occurrence, on m'avait pas donné. Mes parents m'ont donné plein de choses, m'ont transmis plein de trucs, mais pas sur les aspect budgétaire.
Et j'ai dû faire moi-même. Vous êtes maintenant. Sinon, vous seriez capitaliste.
Mais oui, mais c'est ça. Alors,
et là, oui.
Dieu Marx m'en préserve. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est une bonne chose. Parce que, y compris, par exemple, sur les arnaques. Moi, j'ai des élèves qui se font très souvent arnaquer, y compris par les influenceurs, etc. Combien de fois j'ai vu des élèves.
Mais est-ce que c'est trois cours en quatrième qui vont empêcher les.
Pour le coup, c'est comme pour tout. Vous savez, c'est pour, comme l'esprit critique, comme la compréhension de texte. Plus on s'y prend tôt, et mieux c'est. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal.
Juliette Briens.
Non, mais pourquoi pas? Mais ça vient remplacer quel genre de cours? Moi, vous me dites, on met ça à la place de l'art plastique, je suis tout à fait d'accord.
Bonjour les collègues.
Très bien. Non, mais voilà, on a toujours des trucs.
À la place de la flûte.
Si, voilà, oui. Un jour, musicollège. Un jour, c'est les cours de cuisine. Un jour, c'est l'éducation sexuelle. Et un jour, c'est les cours de finance. Très bien, mais en fait, d'abord, il y a maths, histoire et français. Une fois qu'on a récupéré ça, et que. Non, mais je le dis parce que c'est quand même important. C'est pas acquis aujourd'hui. Après, dans un monde parfait où c'est acquis. Pourquoi pas? Mais même ça peut être en option, tu vois. On n'est pas tous obligés de choisir le cours de flûte, quoi. Franchement.
Mais peut-être qu'on peut aussi changer les cours d'économie plutôt que de nous parler d'économie de manière abstraite. Peut-être qu'on peut
de Marx.
C'est vrai que j'avais le.
C'est crypto-marxiste voilà. De prof de SES. Mais...
Un peu moins de Marx, un peu plus de Bernard.
Voilà. Un peu de Keynes. Un peu de Keynes, un peu de Freeman.
Estelle Denis, inspecteur de l'éducation nationale.
Et puis, bon bah Marx, voilà, ça fait longtemps. On peut peut-être s'en passer. Et justement.
Mais quelle horreur! Il a pas sorti d'album! Oui,
voilà. Bon, est-ce que c'est encore utile? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'un cours sur le bitcoin serait peut-être nécessaire, Benjamin.
Mais non. Écoutez, là, c'est pas pareil. Là, je pense que moi, ce que disais.
C'est grève des profs. Hein,
sur le bitcoin, je ne crois pas qu'au collège ce soit indispensable.
C'est dommage.
Mais par contre, au lycée, ces choses-là sont abordées par les collègues. Vous savez, les élèves sont. Très curieux. Moi, des profs d'histoire géo,
si
les élèves me demandent ce que c'est que le bitcoin.
Je vois bien comment ça va être.
Un collègue.
Si c'est un collègue d'extrême gauche, si c'est lui qui vient de parler du bitcoin, bon, je sais pas si je vais être très sensible à son argumentaire. Benjamin. Quand même qu'il y ait une petite sensibilité à l'argent.
Dans l'éducation nationale, les profs d'histoire et les profs de SES ont toujours été suspects de crypto-marxisme, de faire des cours orientés. Moi, je dis toujours une chose. J'apprends à mes élèves à penser, pas à penser comme moi. À penser.
Ouais, voilà.
C'est ça qu'on est. D'accord. Moi, j'ai de l'honnêteté intellectuelle et je suis pas le seul.
Oui, mais d'accord, mais quand on parle d'argent, oui, il y a quand même une sensibilité.
c'est la pire philosophie.
C'est pas pareil, oui. Bon, on enseigne la guerre. On fait ça bien, vous voyez, bon. Mais l'argent, c'est autre chose.
On est monnaie. Marignan 1515, bon, allez, toutes vos farimoles, pourquoi pas. Mais là, les crypto-monnaies, c'est important et c'est sérieux. Ça n'a rien à voir avec vos trucs de guerre.
En psycho, on dit, quand on parle de soi, on parle toujours. Quand on parle des autres, on parle toujours un peu de soi.
Oui.
Je crois que c'est ce que vous venez de faire.
Vous mettez un peu de vous dans ma réunion 1515. Ok, très bien, Benjamin.
Mais moi, j'aurais adoré avoir ces cours. Moi, j'aimerais bien en argent, en finance. Je peux vous dire qu'Estelle me coach régulièrement. Je fais des cours de rattrapage 20 ans plus tard.
On part de très loin, quand même.
Grosse lacune.
Grosse lacune.
20 ans de marxisme derrière moi.
C'est malheureux, Charles. Et voilà où on en est aujourd'hui. Bon. Le bonus RMC ce matin. Combien pourriez-vous dépenser dans une vente aux enchères? Le 3 juin prochain se tiendra à Neuilly-sur-Seine une vente unique en Europe. 50 pièces ayant appartenu à Michael Jackson. Les précisions de Mathieu Béliard.
Mocassin noir entre 6 et 9 000 euros. Veste ou gants à paillettes. Le pantalon Billie Jean, vous savez, avec le trait blanc sur le côté à 8 000 euros. Ah. C'est la collection d'un passionné qui, à la base, voulait ouvrir un musée, qui finalement s'est dit il y a peut-être un petit billet à faire. Finalement, la vente, la collection totale est estimée entre 500 000 et 1 million d'euros. Des vestiges, des accessoires, des tournées de Bad, Dangerous, History, qui devraient trouver preneur. La preuve, l'été dernier, il y avait déjà une vente aux enchères. Une simple chaussette sale portée par Michael Jackson a été vendue à Nîmes. Elle avait été portée pendant un concert quand même, cette chaussette sale, 6200 euros.
Tristan Bannon, vous pourriez mettre un peu d'argent dans une vente aux enchères Michael Jackson?
Le gant là, c'est un peu. Ouais, le gant à paillettes, c'est un peu toute mon adolescence quand même. Ouais.
D'accord.
Mais je pense que ça n'est pas dans mes moyens, soyons très clairs.
Je pense que c'est très cher. Charles Magnin?
J'aimerais, mais Estelle m'engueulerait en me disant « Tu vas pas dépenser ton argent dans une vente aux enchères, Michael Jackson ?»
Bah si, ça peut se revendre.
Achète des bitcoins à la place.
Mais vous...
Non, mais... Oui, je pourrais, ouais.
Et vous achèteriez quoi?
Bah, le gant aussi.
Non, j'ai déjà acheté. Non, j'ai déjà acheté.
Les chaussettes à paillettes, là. Non, pas la chaussette sale de Nîmes, là. Ça, je suis pas d'accord, mais les chaussettes à paillettes, là. Les chaussettes du moonwalk, ouais.
Ah oui, d'accord. Hein, je vais de Briens.
Non, non, mais déjà, parce que je suis absolument pas. C'est pas du tout moi, en fait. Acheter des objets de star, tout ça, j'ai pas la fibre de la fangirl. Et puis de deux, je ne peux pas nier que Michael Jackson avait un talent absolument hors norme, mais pour moi, ça reste et ça restera un violeur d'enfant, en fait. J'en suis persuadée au fond de moi. Et je trouve ça incroyable, en fait, qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de cet aspect de sa vie, quoi. Le fait qu'il dormait avec des enfants de 7 ans, et puis il y touchait un petit peu, quoi, quand même.
Oui, oui, non, mais c'est
beaucoup, hein.
Oui, oui, bah,
beaucoup.
Il y a eu un procès.
Ouais, ouais, ouais. Il a remporté, voilà, c'est compliqué.
D'accord. Bah, pour moi, en fait, vous voyez, c'est une histoire d'interprétation et de ressenti. Bah voilà, pour moi, pour Michael Jackson, en tout cas, mon ressenti, il est fait. Et donc,
c'est pareil, l'homme de l'artiste, quoi.
Ouais. Oui. Je pense qu'il faut. Bah, c'est sûr que je vais pas me boucher les oreilles à chaque fois que Billie Jean arrive.
Mais vous êtes dans la cancel culture.
Mais non, mais j'ai jamais été comme ça. Je suis pas du tout dans la cancel culture. La chanson, elle existe. Elle est géniale. Je peux rien y faire, en fait. Il y a énormément d'artistes, d'écrivains et de toute trempe qui étaient pas des bonnes personnes. Oui. Ça n'en rien. L'œuvre est incroyable. Elle est incroyable. Tu peux pas prétendre aujourd'hui oublier Billie Jean, oublier Bad ou Thriller. C'est impossible. Elle fait partie de ta vie, la chanson. Donc. Voilà. Enfin, mais de là aller acheter des reliques de Michael Jackson, non, en fait. Voilà, c'est tout.
Benjamin Hamar.
Ouais, moi je suis pas hormis la guitare de Brassens et la chemise de Ferré. Ouais. Moi
c'est moins cher. Ouais. La chemise de Ferré, je pense que pour 250
euros. Encore, je suis même pas sûr. Mais
elle est sur Vinted d'ailleurs.
Non mais voilà, je veux dire, moi j'ai pas du tout la culture du groupie. Voilà, j'aime beaucoup Michael Jackson, c'est toute mon adolescence, mais vraiment. Mais je suis pas dans la culture du groupie, c'est vraiment pas dans mon ADN. C'est comme le Bitcoin, c'est pareil.
Ok, je ne vois pas le rapport, mais très bien. Dans un instant, tiens, on parlera des seniors qui se disent maltraités en entreprise. Certains poussent des coups de gueule. Pour vous, les seniors au travail, est-ce que c'est cadeau ou est-ce que c'est fardeau? Bah écoutez, on en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h30, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. On est très heureux d'être avec vous jusqu'à 15h, de partager votre pause déjeuner, votre trajet en voiture, ou d'être tout simplement avec vous dans votre salon, avec Charles Magnin, Tristan Bannon, Benjamin Hamar et Juliette Briens. Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi au coup de gueule du jour.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux.
Ce coup de gueule, c'est celui de Jean-Jacques Richard sur LinkedIn. Jean-Jacques Richard, c'est un cadre quinquagénaire au chômage et qui dit « Je suis vieux et je vous emmerde ». C'est le titre de son poste qui a fait des millions de vues et qui dénonce le traitement infligé aux plus de 50 ans au chômage et en entreprise des seniors qui pourtant sont de plus en plus employés en France. Le problème, Charles, c'est qu'ils sont souvent moqués et discriminés.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'âgisme, les blagues, les remarques, les discriminations envers les collègues plus âgés. Et attention Estelle, ça commence dès 45 ans, âge à partir duquel on vous classe en tant que senior en entreprise. Et clairement, les dernières années de travail ne sont pas les plus plaisantes. Selon une enquête du Défenseur des droits, un senior sur deux a connu, je cite, des relations de travail dévalorisantes au cours des 5 dernières années de sa vie professionnelle. Ils dénoncent les préjugés de leurs collègues plus jeunes qui pensent pêle-mêle qu'ils sont dépassés par les nouvelles technologies, qu'ils ont une santé plus fragile, qu'il coûte trop cher à l'entreprise. Et encore, ça c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir un boulot, car les seniors qui cherchent un emploi, là aussi, font face à des préjugés tenaces. Selon un sondage Ipsos, un tiers des recruteurs admet avoir déjà écarté d'office une candidature de senior et près de la moitié avoue que c'est leur direction qui leur a conseillé de choisir des profils plus jeunes. Autrement dit, l'expérience n'est pas valorisée lors des recrutements, au contraire. Et pourtant, c'est cette même expérience qu'on demande aux plus jeunes qui, eux aussi, galèrent à entrer sur le marché du travail.
Alors, un senior au travail, c'est un cadeau ou un fardeau, Benjamin Hamar?
Alors moi je suis totalement vent debout contre le senior bashing ou l'agisme.
Il n'y a pas de blague en salle des profs?
Oh ben non, je serais malvenu. Enfin, j'en ai pas entendu. De toute façon, maintenant, j'ai plus de 50 ans. Donc,
oui, considérez
les profs quand ils n'étaient pas là.
Oui, mais vous les faites.
Ils le font
oui, mais vous les faites pas. Un prof de 60 ans, il n'y a jamais une petite blague.
Enfin, non, il peut y avoir des bons mots sur les pratiques des uns et des autres, mais pas en lien avec l'âge, honnêtement. Moi, je suis pas du tout friand de ce genre de truc. Et j'ai jamais été friand de ce genre de truc parce que, en réalité, pour les seniors, et on va tous le devenir autour de cette salle à un moment ou à un autre, il y a quand même des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que, on vous dit, il faut travailler plus longtemps, il faut justement rester, il y a cette injonction-là, alors qu'à côté, on sait que dans le secteur du travail, plus on vieillit et moins on est intéressant et plus on peut être mis de côté. Et on est dans une société de l'opposition permanente. Moi, je l'ai souvent dit ici. Je trouve ça détestable. Les jeunes contre les vieux, les fonctionnaires contre les salariés du privé. Il y a des tas de choses et il y a du clivage permanent, etc. Et le critère de l'âge, je trouve, est un critère stupide parce que on va tous atteindre cet âge-là. Et moi, j'ai autour de moi des gens qui ont entre 50 et 60 ans qui sont confrontés à la problématique de l'emploi. Ou alors soit qui ont perdu leur emploi, soit qui sont très stressés par le fait de le perdre, et y a rien de drôle parce que y a des gens qui sont en plus et
totalement. On va pas s'interdire des petites blagues en entreprise.
Non mais ça oui d'accord. Mais oui. Enfin, tout dépend comment vous faites. Bon. Tout dépend si vous riez.
Moi j'écoute
si
très fort
sûr.
Le son. Regardez, au bureau je vois bien les regards peinés de mes collègues dont Charles quand je mets très fort, tout le monde met des casques et tout. Bon ben moi j'écoute très fort les trucs. Bon ben je vois
mais
bien.
Non, c'est encore pire, c'est un refus d'obstacle. Elle refuse de mettre un casque.
Voilà. Non, ben je n'ai pas envie.
Oui bon. Mais personne à 25 ans d'arriver à l'entreprise dit je mettrai pas de casque.
Oui ben voilà. Bon ben
je vois bien. Mais de vous en vous disant imaginons regardez comme elle met du temps à remonter les escaliers.
Bah oui ben ça pourra arriver.
Au bout d'un moment, ça peut être drôle, mais à un moment, c'est plus du tout drôle. Et surtout, derrière,
on
vous voit comme un fardeau, c'est-à-dire comme le boulet de la boîte, comme la personne qui n'est pas compétitive.
Et si c'est vrai. Il y a peut-être des seniors qui sont des boulets dans leur boîte. Jeunes aussi, d'ailleurs.
Mais voilà, merci. Oui, donc la question n'est pas la question
Estelle,
de l'âge.
Quand Estelle lance dans l'équipe, mais au fait, c'est quoi ce YouTube dont vous me parlez, là?
Bon, bah oui.
Et bah, on se dit tous, ah bah là, faut qu'on la mette à niveau.
Non, mais il y a des. Voilà. Oui, mais c'est bien,
c'est de la formation continue.
Voilà. Moi, c'est salutaire. Mes jeunes collègues qui font des mises à jour générationnelles, comme mes élèves. Voilà. Moi, mes élèves font des mises à jour générationnelles. Je prends ça très bien. Oui. Mais tout dépend si derrière, il y a effectivement, vous avez une cible dans le dos et on se fout de vous et on rigole pas avec vous, de vous, c'est quand même pas pareil.
Alors, celui qui a poussé ce gros coup de gueule dont je viens de vous parler, il s'appelle Jean-Jacques Richard. C'est l'auteur donc du post Je suis vieux et je vous emmerde. Et il est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Estelle Denis.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce sujet un peu provoque. Senior au travail, cadeau ou fardeau. Est-ce que vous êtes encore en recherche d'emploi depuis votre poste, Jean-Jacques?
Alors j'ai retrouvé un poste que j'ai quitté très récemment, donc je suis de nouveau en recherche d'emploi.
D'accord.
J'aime l'aventure.
Ok, mais vous aviez quand même retrouvé un poste malgré votre âge, mais qui n'était pas très élevé non plus quand même.
Oui, j'ai retrouvé un poste avec beaucoup de difficultés néanmoins. Mmh. J'ai mis pratiquement un an à retrouver un poste. Voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mmh. Et c'est toute la problématique. Le taux de chômage des 50-64 ans, c'est il est très élevé, hein. C'est 1,5 million de personnes en France, donc c'est très important.
Et est-ce que vous vous sentez encore aujourd'hui, malgré votre poste qui a été vu des millions de fois sur LinkedIn, qu'il y a encore une discrimination à l'embauche, que les entreprises sont frileuses à l'idée d'embaucher, j'aime pas ce terme en vrai, mais des seniors, voilà, des plus de 50 ans?
Oui, alors les entreprises sont frileuses. Hein. On est la France est le paradis des étiquettes. Hein. On colle des étiquettes aux jeunes parce qu'ils sont trop peu expérimentés. On colle des étiquettes aux vieux parce qu'ils sont trop peu agiles ou trop peu flexibles. Et donc oui, il y a une véritable problématique. Moi, j'ai avec ces posts sur LinkedIn, j'ai eu des milliers de commentaires. J'ai lu des histoires qui sont absolument dramatiques. J'ai échangé avec des personnes qui véritablement vivent un calvaire. Et c'est là, moi, tout mon engagement. C'est pas moi, c'est pas ma petite personne. C'est les 1,5 million de personnes qui vivent une situation extrêmement difficile.
Et est-ce que si on se met quand même à la place des entreprises, on peut pas se dire quand même, Jean-Jacques Richard, que embaucher un senior, c'est pas forcément l'avenir pour une boîte, parce qu'on sait que d'ici 5, 10, 15 ans, et il ne sera plus là. Je dis pas qu'un jeune de 25 ans sera là 5 ans plus tard, mais on peut imaginer que voilà, pour un senior, ça veut dire que ce sera pas l'avenir de la boîte quand même. Et souvent, oui, alors, il est plus cher qu'un jeune.
Oui, alors déjà sur le turnover, c'est un faux débat, la problématique du turnover, parce que quand bien même vous empocheriez une personne de 60 ans, admettons qu'elle doive rester dans l'entreprise 4 ou 5 ans, la moyenne, le turnover moyen des jeunes, entre 18 et 24 ans, c'est 2 ans et demi.
D'accord.
Donc il n'y a pas photo. Et un senior à 60 ans qui retrouve un emploi, j'aime mieux vous dire, il va s'y accrocher, véritablement. Il sera à l'heure, il sera déterminé,
oui, ça, c'est vrai.
Il sera engagé, il sera... Voilà. Donc, il va apporter un souffle à l'entreprise et que toute entreprise a besoin. Mais j'entendais le journaliste au chroniqueur, je ne sais pas,
Benjamin. Justement,
Benjamin, pas de clivage. Moi, il n'y a pas de clivage entre les jeunes et les vieux. C'est un équilibre. On parle dans l'entreprise de pyramide des âges. Moi, je voudrais qu'on parle de silo des âges. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et l'opposition, c'est la pire des choses. Si on veut continuer à ruiner ce pays, on n'a qu'à opposer les jeunes avec les vieux, avec les expérimentés. Mmh. Et là, on va véritablement y arriver.
Merci beaucoup Jean-Jacques Richard d'avoir été avec nous, auteur du Poste et du livre, justement du même titre, Je suis vieux et je vous emmerde, et spécialiste en sécurité globale. Merci beaucoup Jean-Jacques. Juliette Briens, c'est ce que vous considérez qu'effectivement, comme Jean-Jacques Richard, comme Benjamin, c'est une chance pour une entreprise d'avoir des personnes plus âgées, vous qui êtes la plus jeune et de loin sur ce plateau.
Je trouve que le jeunisme en entreprise est parfaitement dégueulasse. C'est clair, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà connu des entreprises où on se débarrassait de tous les vieux pour ramener toute la génération Instagram à la place, et l'entreprise y a beaucoup perdu. Moi, tout ce que j'ai appris dans la vie, je l'ai appris de personnes plus vieilles que moi qui ont décidé de me transmettre des choses. Et en entreprise, c'est incroyable parce que rien ne remplace l'expérience. Quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir, vous, toutes les nouvelles technologies en place, etc. Et c'est très bien, c'est important aussi. Mais rien ne remplace l'expérience d'avoir vécu plus longtemps que vous, tout simplement. Et un plus vieux en entreprise, ça amène beaucoup de choses. Ça amène de la sagesse, ça amène un peu de calme, un peu de prise de recul. Ça amène de l'expérience, comme j'ai dit, ça amène une éthique de travail. Et je trouve que le combat pour l'emploi senior est un combat noble et que moi j'aimerais mener aussi, parce que je trouve ça insupportable. Dire en plus qu'on voit que quand on embauche un senior, on se voit pas sur le long terme et tout, mais c'est complètement faux en fait. Il y a un mec de 50, 55 ans, 60, il peut transformer votre entreprise en 4 ans, juste parce qu'en fait il est meilleur manager que les autres, etc. Et je pense que d'être
quand un jeune avec l'IA, avec ChatGPT ou Claude, il peut vous transformer l'entreprise
en
18 minutes.
En règle générale, je pense que être qu'entre jeunes, qu'entre femmes, ou qu'entre hommes, ou qu'entre vieux, d'ailleurs, c'est toxique en fait. Il faut un mélange de tout, et je déteste ces entreprises, et je ne travaillerai jamais dans une entreprise qui réagit comme ça. Les vieux maintenant, c'est dehors, place à la nouvelle génération.
Oui. Alors c'est rare que les entreprises le disent comme ça.
Mais ils le disent pas, mais ils le font.
Voilà.
Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu, et je trouve ça parfaitement dégueulasse. Et moi, j'ai toujours largement plus apprécié de travailler avec des gens plus vieux que moi, parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus à m'offrir en fait.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que je le disais, Tristan Bannon, voilà, les plus de 50 ans, 60 ans, au niveau de prendre de l'intelligence artificielle, c'est moins ça. Donc on peut aussi se dire que l'avenir, on n'arrête pas d'en parler, que l'avenir, c'est l'intelligence artificielle, et que pour le coup, les jeunes sont plus formés que nous. Pour y arriver. Donc est-ce que au moins, à minima, il faut former les plus de 50 pour pouvoir être à la page?
Vraisemblablement, il va falloir les former, mais je pense qu'effectivement la formule magique, elle est dans la mixité. Déjà parce que si vous donnez à un jeune uniquement de l'intelligence artificielle, vous allez voir le résultat à l'arrivée. Oui, il faut mieux qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'expérience à côté pour rendre un peu plus présentable ce que l'intelligence artificielle vous aura donné. Moi, quand j'ai commencé dans les métiers que je fais, c'est-à-dire quand j'ai commencé en rédaction et dans l'édition, j'étais très très jeune, puisque je suis entrée en rédaction, j'avais un peu moins de 20 ans, et j'étais toujours avec les anciens. Mm-hmm. Et j'étais avec eux parce que justement ce mix, ce que j'apportais avec ma jeunesse et ce qu'ils m'enseignaient avec leur expérience, leur savoir aussi, parce que ils ont des savoirs qui parfois ne sont même plus enseignés, on appelle ça l'expérience, mais c'est aussi des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils peuvent vous raconter. Ça faisait un mix gagnant. Après, on va pas se mentir, vous l'avez dit tout à l'heure, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est ce que ça coûte, parce que l'expérience, ça se paye, et qu'évidemment, un jeune qu'on emploie dans une société, on l'emploie pas au même tarif que quand on recrute quelqu'un qui a 20 ans d'expérience.
et il est plus malléable. Et justement, on a Florence, tiens, de Sougy-sur-Loire, dans la Nièvre. Elle est responsable d'agence intérim. Bonjour Florence.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Florence, est-ce que vous essayez de faire travailler au maximum des seniors ou est-ce que vous préférez faire travailler des jeunes?
En fait, moi, je fais travailler des compétences et des gens motivés. Mmh. Donc, c'est pas des jeunes ou des vieux. Moi, j'ai une centaine d'intérimaires et un quart ont plus de 50 ans. Je me suis amusée à regarder.
D'accord.
Pour moi, c'est un vrai plus d'avoir des seniors parce que ils sont jamais absents, ils sont jamais malades, ils ont 4 enfants, mais ils sont pas en retard. Ils se débrouillent toujours, ils ont toujours des solutions et ils sont extrêmement motivés. C'est clair que des gens qui sont en recherche d'emploi, des mères de famille, qui n'ont pas travaillé pendant 10 ans, qui tout d'un coup se retrouvent sur le marché du travail, elles sont extrêmement motivées dès qu'on leur tend la main.
Donc, et c'est vrai que les enfants sont plus grands, donc il y a moins d'absence liées aux enfants, c'est sûr.
Moi, je travaille dans l'industrie, mon client travaille dans l'industrie, donc on forme les gens, hein, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Mm-hmm. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir des plus de 50 ans, parce que si je dirais que ce sont mes intérimaires dont j'entends le moins parler.
Ah oui, d'accord.
Ils n'ont jamais de problème. C'est toujours impeccable. C'est toujours charmant. C'est toujours bien élevé. Je ne fais pas du jeunisme, enfin, de l'anti-jeunisme primaire, mais il s'avère que je connais. J'oublie le nom de mes intérimaires en senior. Je connais bien celui des jeunes que je dois recadrer. Donc ça, pour la petite histoire, quand même, c'est amusant parce que j'ai quand même 61 ans et moi 61 ans. Par contre, en tant que directrice des agences d'intérim, je prends des scuds où on me dit « Ah, ça te dérange pas d'avoir les autres directrices qui sont beaucoup plus jeunes que toi ?» Ou alors tu n'es peut-être pas prioritaire, tu sais, tu es bientôt à la retraite pour les formations. Voilà, j'ai repris ce genre de scud cette année. Oui, maintenant je suis à la retraite, mais je me sens pas forcément pour le moment prête à tout
bien sûr.
À abandonner. Quoi. Donc c'est assez drôle de voir que moi je défends les seniors, mais que quelque part l'attaque ne vient pas du côté où on l'attend. Quoi. C'est assez étonnant. Et pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est très amusant parce que évidemment, comme tous les groupes d'intérim, on nous a mis à notre disposition l'intelligence artificielle. Et parmi mes petites jeunettes, j'ai des collègues qui ont maximum 40 ans. Je suis la seule qui me serve de l'IA.
Ah oui, d'accord. Oh bah, comme quoi.
Voilà. Je pense que justement, j'ai compris plus avant eux le gain de temps et en quoi ça pouvait m'aider.
Merci beaucoup, Florence, en tout cas pour ce témoignage. Merci à vous. Et on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Senior au travail, est-ce un cadeau ou un fardeau? Vous estimez que c'est un cadeau à 63%, deux tiers, un tiers.
Oh bah, bonne majorité. Oui. Quand même,
Tout de suite. Le jeu de la Coupe du Monde. Bah oui, vous le savez, cette semaine sur RMC, vous devenez sélectionneur puisque c'est la liste des 26 cadeaux. Les 26 cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde. Il y a des vidéoprojecteurs, des écrans, des barres de son, des maillots de l'équipe de France, des baby-foot. Pour les remporter, il faut vous inscrire tout de suite. Vous avez 5 minutes pour envoyer le mot liste par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
Dans un instant, dans Estelle Midi, le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt. Et puis ensuite, on se posera cette question. Déjeuner à la boulangerie, est-ce que c'est bon plan ou déprimant? On parlera du succès de Marie Blachère. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Et on continue à surveiller vos messages sur le WhatsApp de l'émission. Tiens, ce débat sur les seniors en entreprise vous a fait réagir nombreux. Cédric nous dit, c'est faux, arrêtez les idées reçues. J'ai 50 ans et je maîtrise parfaitement l'IA. Ce n'est pas forcément un truc de jeune, nous écrit Cédric. Guy nous dit, moi j'ai 40 ans et donc j'ai l'impression que je suis pile au milieu. J'ai des collègues plus âgés que moi. Je leur apporte de l'aide, c'est vrai, sur certains outils informatiques, mais en contrepartie, ils me font bénéficier de leur expérience et c'est très appréciable, nous raconte Guy. Et puis j'ai Sergueï qui nous dit, pour moi, les anciens sont les meilleurs professeurs sur le lieu de travail. Ça permet aussi de former chacun à son poste, des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou dans les principes théoriques. Donc oui, c'est très précieux, un senior. Il ne fait pas que son travail, il aide aussi les plus jeunes. Et ça n'a pas de prix. Voilà ce que pense Sergueï. Et puis j'ai Will qui nous dit, j'ai 60 ans et sur mon CV, j'ai été obligé de masquer ma date de naissance et ma photo pour être certain de passer les premiers filtres. Voilà ce que nous dit Will. Vous continuez à réagir au 06 12 424 424.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous le savez, 13h50, c'est l'heure du répondeur de Pierre-Antoine Damcourt, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi,
le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
Ça va bien, Antoine.
Super. Ouais. Tristan, ça va, ça se passe bien.
Ça va.
Voilà, alors juste quelques petits tips pour être bien vu par la patronne. Non, mais c'est important. Surtout, ne jamais lui couper la parole, ça, mais vous le savez. Ne pas la regarder dans les yeux.
Jamais.
Voilà, elle prend ça comme un affront, surtout quand c'est une femme. Ne pas porter de marinière, parce que ça, c'est son truc.
Bah, ça, je suis d'accord. Juliette en a une aujourd'hui, j'ai été obligée de me changer.
Juliette, c'est pas terrible. Et si vraiment vous voulez marquer des points, vous lui dites que la Bretagne, c'est extraordinaire et que vous avez un air fryer. Voilà,
ouais,
là,
normalement,
voilà.
Le quintet dans l'ordre.
Le quintet dans l'ordre.
Voilà. Allez, c'est bon, je vais rester sur la Bretagne, parce que pour le reste, dans le air fryer, c'est quand même important. Allez, on écoute un premier message.
C'est parti.
Oui, Estelle, c'est Louis Sarkozy. Bon, hier, j'ai proposé de supprimer le SMIC chez Apolline. Eh bien là, j'ai une nouvelle idée, c'est de supprimer les pauvres. Voilà, hein. Parce que c'est eux le problème. Plus de pauvres, plus de pauvreté. Eh, vous avez vu, hein, ça bosse, hein, ça tourne là-haut, hein,
Il
y a une logique.
Pourquoi personne n'y a pensé avant?
Je sais pas.
Moi, j'ai hâte d'écouter la prochaine chronique de Loulou demain, hein, on sera, voilà, c'est
dans la matinale,
dans la matinale.
L'herbe.
Allez, message suivant.
Coucou ma puce, c'est maman! Dis donc, t'as pas oublié quelque chose dimanche? Mon topperoir! T'essaies de me la faire à l'envers, hein! J'ai compté, c'est le 32e que t'oublies de me ramener! Donc je te préviens, t'es pas prête de récupérer ta biographie dédicacée d'Edouard Balladur! Voilà!
Oh, bon, en même temps, vous l'avez déjà lu 10 fois,
mais
donc pas
du
besoin.
Tout,
et puis on y apprend plein de choses. Moi, je savais pas, par exemple, qu'Edouard Balladur était né du croisement entre un homme et un pélican.
Mais
on apprend des choses! On apprend des choses! C'est magnifique!
Bah évidemment, ça ferait Benjamin.
Un pélican, c'est toujours drôle.
Toujours. Allez, message suivant.
Oui, bonjour ma Estelle, c'est Nicolas. Hein, écoute, je voulais rebondir sur l'idée fantastique de mon fiston Louis. Oui. Supprimer les pauvres, c'est brillant. Hein, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Demain, il retourne chez Apolline et il va faire une autre proposition que je lui ai soufflée. Supprimer les juges. C'est pas une bonne idée ça? Hein, comme ça, plus de bracelets, plus de prison, plus de problèmes. Allez, je t'embrasse.
Ouais, bah, par contre, si on décide de supprimer les yaourts, il risque de pas manger grand-chose ces prochaines années. Hein, le Nicolas.
Oh là là.
On part en Charente, Estelle.
C'est parti.
Ouais, bonjour Michel, je suis maraîcher en Charente, et c'était pour dire à ceux qui s'inquiètent pour la Coupe du Monde de l'état de forme de Kylian Mbappé, vous inquiétez pas, il va être en pleine bourre. Juin et juillet, c'est la meilleure saison pour le melon. Eh, je m'y connais, hein.
Ça a dégonflé un peu, non, le melon d'Mbappé?
Il y a une petite polémique, là, quand même.
Oui, c'est reparti, mais vous allez voir avec les Bleus, ça va aller. Meilleur buteur, vous pariez, Estelle?
On verra.
Allez,
je vais réfléchir. Voilà.
Allez, retour à Paris.
Oui, bonjour, Philippe de Paris. J'ai vu que 84 écoles maternelles sont concernées par les violences en périscolaire à Paris. Donc bon, avec ma femme, là, on a bien réfléchi. Et on va mettre nos gosses dans une école catho, loin de Paris. Voilà. On a trouvé un petit village, là, ça s'appelle Bétaram, voilà. Au moins, là-bas, ils seront loin de toute cette horreur. Et il y a de la place.
Ouais, non, je vous conseille pas non plus, là. J'ai lu quelques
avis.
C'est moyen. C'est pas foufou.
On part en Savoie pour notre prochain message.
Oui, bonjour, Bertrand de Chambéry. L'Union européenne a interdit le nitrite dans la nourriture pour chiens en 2023, mais toujours pas dans la nourriture pour les humains. Alors que c'est prouvé, ça file le cancer. Donc à la maison, depuis quelques mois, on s'adapte. Les enfants, à table! Croquettes, saumon, asperges, vos préférés! Et en plus, leur poil est plus soyeux. Pas vrai, les enfants?
Mais c'est pas bête, ça. Les croquettes, en plus, on fait des économies.
Mais moi, oui, super. Non, il paraît que c'est très cher.
C'est vrai que c'est pas donné, les croquettes. On s'écoute un dernier message?
Et voilà.
C'est parti.
Oui, bonjour, c'est le patron d'IKEA France. Voilà, on vient d'annoncer la suppression de 850 emplois dans le monde. Donc voilà, je voulais rassurer nos employés qu'on va mettre au placard, ils pourront choisir lequel dans notre catalogue. Alors il y a le Smashstadt, que j'aime bien, mais aussi le Willstadt. Et pour ceux qui ne retrouveront pas de boulot derrière et voudront mettre fin à leur jour, je conseille le Gürsken, parce qu'il fait aussi penderie. Merci, au revoir.
C'est
horrible.
Mais oui, c'est horrible, la fin d'IKEA, c'est un peu la fin de la hype IKEA.
C'est pas la fin d'IKEA.
Bah, on a l'impression. Moi,
non,
où est-ce que je vais aller pour m'engueuler avec ma copine le dimanche, etc. Maintenant, c'est...
Vous irez le samedi.
Ouais, j'irai le samedi. Allez, pourquoi pas. En tout cas, nous, on efface tous les messages. Et demain, on recommence. Salut.
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt, tous les jours, 13h50, dans Estelle Midi. Et évidemment, en podcast, rmc.fr, l'appli RMC, toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez écouter donc les podcasts de Pierre-Antoine. Et dans un instant, dans Estelle Midi, un nouveau débat. On va parler de la success story. Marie Blachère, ça cartonne, ça talonne Burger King et McDo. Mais déjeuner à la boulangerie. Il y a de plus en plus de gens qui déjeunent à la boulangerie. Est-ce que pour vous, c'est un vrai bon plan ou est-ce que c'est totalement déprimant? Racontez-nous, tiens, si vous allez faire vos pauses déj à la boulangerie avec vos collègues ou si au contraire, vous n'y allez jamais. On vous attend pour en débattre au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi, 06 12 424 424. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.